un garçon qui porte une perruque, parfois, un garçon qui porte des robes, parfois. Il danse avec un garçon, souvent, ça se passe sur TF1 pour l'émission Danse avec les stars en prime time. Ce garçon, c'est Bilal Hassani, finaliste du concours de danse, un rôle modèle incroyable, une inspiration totale pour des générations LGBTQIA+, une visibilité énorme, celle qui permet de faire bouger les mentalités. Mais il dérange, même chez certains gays apparemment, et aussi sur la couverture du nouveau Têtu. On va donc en parler avec mes deux invités, et également de la nouvelle direction que prend le magazine. Bienvenue chez Visible.
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 C'est parti.
Pour ce nouveau numéro de Visible, je souhaite la bienvenue à Antoine Patinet, directeur de la rédaction de Têtu. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Et Thomas Vanpouille, rédacteur en chef. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Bienvenue chez Visible.
Merci.
Merci à vous. Alors j'en parlais dans l'édito, le nouveau Têtu, il est sorti fin novembre avec Bilal Hassani en couverture. La photo, elle est splendide, elle renvoie quand même à beaucoup d'icônes LGBT, un peu de Pierre et Gilles, un peu de Madonna. Mais la publicité du magazine vient d'être censurée par la RATP et la SNCF. Comment vous avez réagi ?
Alors, juste une précision, c'est la régie de la RATP et de la SNCF, parce que certains diront que la RATP n'est en rien mêlée à ça. Et c'est vrai que c'est la régie de la RATP et de la SNCF, Média Transport, qui nous a opposé une fin de non-recevoir en disant que la couve présentait un caractère confessionnel et qu'elle pouvait choquer ses usagers. Comment on a réagi ? On a réagi, on était pas très contents, à vrai dire.
On était surtout surpris au départ. Ouais, c'est-à-dire que d'entendre que Têtu présente une une confessionnelle, c'était quand même assez drôle. Donc d'abord de la surprise, de l'étonnement, et ensuite le refus, puisqu'ils nous ont demandé quand même dans un premier temps si on n'avait pas une à leur présenter.
Ah bon ?
Ah ben oui. Je ne sais pas s'ils se sont rendus compte de ce que ça signifiait de demander un truc pareil à un magazine. Évidemment, on n'en avait pas d'autres et de toute façon, on n'aurait jamais changé la une. Donc, étonnement, surprise. Après, on était surtout embêtés du fait qu'on n'allait pas pouvoir accéder à cet affichage.
Ouais, une déception, parce que c'est une régie qui revendique toucher 8 millions de personnes, je crois. Nous, c'était en plus un investissement assez conséquent. Parce qu'on est quand même un petit média avec on a quelques moyens parce qu'on se bouge, mais c'était un investissement et en fait on était un peu déçus de pas pouvoir profiter de cette visibilité, quoi.
Et c'est ils ont argumenté juste cet aspect confessionnel.
Oui, enfin c'était en deux points, c'était présente un aspect confessionnel et une nature à choquer certains voyageurs. Le deuxième point d'ailleurs est intéressant, puisque du coup ça veut dire, mais qu'est-ce qui dérange dans cette une en fait ? Confessionnel, évidemment non, puisqu'il n'y a pas de message religieux, il n'y a absolument évidemment pas de prosélytisme religieux. C'est pas non plus une une qui caricature la religion, c'est pas une une qui offense la religion, c'est une une qui est artistique, qui est très belle et qui est un clin d'œil à toute la tradition que tu as évoquée de la pop culture, de la mise en scène de la Madone, etc. Et donc, qu'est-ce qui peut choquer dans la une ? On est obligé de s'interroger sur le fait de savoir si. Est-ce que si les Inrock avaient présenté Madonna en tenue d'icône religieuse, est-ce qu'ils l'auraient refusé aussi ? Qu'est-ce qui dérange là-dedans ? Est-ce que c'est le fait que ce soit Bilal qui soit dans cette position ? Est-ce que c'est Têtu ? Est-ce que c'est Bilal plus Têtu ? La question reste ouverte.
C'est justement la question que j'allais vous poser. Parce que justement, sur la personnalité de Bilal Hassani, quand on voit les réactions... j'ai pas envie de nommer cette personne, l'animateur sur C8, gay, plutôt folophobe, j'ai envie de dire.
Mais on peut le nommer, puisque j'en ai discuté avec lui il y a deux jours, puisqu'ils nous ont invités pour parler de cette une, justement. Mathieu Delormeau.
Voilà. Qu'est-ce qu'il disait au début, Mathieu Delormeau sur...
Alors, c'était au début de Danse avec les stars. Il y avait eu cette sortie dans TPMP où il avait dit il y en a marre qu'à chaque fois qu'on met des homos à la télé, ce soit toujours, grosso modo, la folle de service. Et donc, évidemment, folophobie. Nous, on avait réagi déjà à l'époque. On avait écrit un texte pour essayer de... Pas pour épingler, d'ailleurs, Mathieu Delormeau, en fait, pour essayer d'expliquer pourquoi ce propos était daté, celui de Mathieu Delormeau. Parce qu'il correspond à une époque, en fait. Et c'est de ça dont on a discuté il y a deux jours. Et on en reparle aussi dans le magazine, évidemment. Mathieu Delormeau, il est né dans dans la fin des années 70. Il est un peu plus vieux que moi. Moi, je suis né en 84. Et effectivement, à l'époque, il y avait un problème de représentation LGBT en général, gay également, à la télévision et partout, où on pouvait donner l'impression que, moi, par exemple, quand j'étais ado, quand je regardais la télé, il y avait très peu de gays, et ça avait fait l'événement quand le Loft était arrivé en 2001.
Avec Stevie, et ouais.
C'était Stevie. Mmh. Et effectivement, ça posait problème pour les ados, puisque quand on revenait au collège ou au lycée le lendemain, les remarques sur on a vu ton copain à la télé, maniéré, etc., mmh. etc. Ce qui n'est pas un problème en soi, évidemment, pour Stevie, enfin, c'est pas du tout, heureusement. Mais il pouvait y avoir un problème chez les. Un manque. De sentiments de représentation chez les jeunes qui non seulement se retrouvaient à découvrir leur homosexualité, à envisager comment ils allaient le dire à leurs parents, etc., etc., ce qu'on a tous vécu. Mais c'est vrai que quand vous devez annoncer à vos parents que en fait, vous êtes de la communauté de 3 personnes identifiées et que vos parents ouais. identifient déjà comme anormal, folle, enfin tout ce que vous pouvez, à l'époque, ça posait un problème. Et donc... la remarque de Mathieu Delormeau, à mon avis, elle était plus liée à son vécu de l'époque qu'à une problématique d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, quand on en a parlé, il en est convenu. Et après, il a défendu Mordicus, la une de Tétu, Bilal, la une de Tétu, en expliquant que c'était un progrès, que c'était très moderne, que c'était les combats d'aujourd'hui. Je pense que vraiment, sa remarque du début, enfin, je ne peux pas me l'excuser, hein, nous, on l'a critiqué, on a essayé d'expliquer. Mais en tout cas, il a évolué depuis.
Tant mieux, parce que ça concourt quand même à. Ça participe quand même à une parole homophobe, hein, même quand ça vient d'un gay.
Oui,
ça.
Après, je pense que c'est une émission où il y a quand même tout un jeu de posture. Ouais. C'est pas pour défendre Mathieu Delormeau ou les autres d'ailleurs, mais je pense qu'il y a un jeu de posture où on dit parfois des choses qu'on pense pas forcément, uniquement pour créer un peu du conflit à table, en tout cas.
D'accord. Enfin, mais du coup, pour en revenir à la Coupe de Tétu, qui est censurée, qui est énormément, qui a été aussi critiquée sur Twitter par des gays et tout, en quoi vous pensez que le personnage de Bilal, enfin la personnalité de Bilal Hassani, dérange les gens?
Il y a une partie qui est liée à ce qu'on vient de dire de la remarque de ouais. Mathieu Delormeau. C'est-à-dire qu'il y a encore quand même beaucoup de gays, surtout. Parce que la plupart des critiques viennent quand même, enfin, au sein de la communauté, viennent plutôt de mecs. Et il y a encore ce fond, oui, de folophobie, la distinction entre qu'est-ce que c'est un mec normal et un mec qui fait folle, un mec efféminé. Et c'est donc cette problématique de l'homophobie intériorisée. C'est ce qu'on essaie d'expliquer. On a écrit un texte, évidemment, à côté de Bilal Hassani. Donc il y a l'interview de Bilal et il y a un texte de nous pour expliquer notre démarche et ce qu'il représente pour nous. Ce qu'il représente, justement, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, il y a plus de façon d'être un garçon normal. D'ailleurs, on fait référence dans le magazine à Mylène Farmer qui chante depuis.
Mais il est super. Hein,
sans contrefaçon, je suis un garçon, juste avec un mouchoir au creux du pantalon. Voilà, elle le chante depuis 30 ans. On le chante avec elle et en fait, on n'a jamais fait notre examen de conscience. Et il est temps, et c'est ce qu'on essaye de dire, et c'est ce qu'on dit avec la une, avec le texte derrière, aux gays qui nous lisent. Alors évidemment, il y a ceux qui sont déjà on board et qui sont très heureux. Il y a aussi beaucoup de réactions positives, mais à ceux qui auraient des réticences, essayer de leur montrer qu'en fait, ce que représente Bilal Hassani, les avancées qu'il représente, les barrières qu'il fait tomber, en fait, les concernent aussi eux. Quand la communauté accepte en son sein, même en son sein, la différence, évidemment qu'elle fait progresser à la fois la communauté dans son ensemble et la société dans son ensemble.
Surtout qu'il fait énormément avancer les choses. Le voir danser avec, Romain.
Jordan Mouirac.
Je me trompe à chaque fois.
Comment tu peux oublier Jordi?
Non, je n'oublie pas. Alors, pour en revenir à Tétu, c'est le premier magazine gay créé en 1995. Vous êtes arrivé à la direction il y a peu de temps. Avant d'avancer plus loin, j'aimerais que vous définissiez chacun votre rôle. Antoine, vous êtes directeur.
Moi, je suis directeur de la rédaction. En fait, on travaille vraiment main dans la main avec Thomas. Moi je suis assez... déjà, Thomas, vous l'avez vu, parle très bien. Je suis plus discret, mais je pense que j'ai une appétence pour faire travailler les gens ensemble et pour mener un projet éditorial, je crois, qui rassemble à la fois des journalistes, des photographes, des illustrateurs, queer évidemment. Je pense que moi j'ai un peu la vision 360 et Thomas est garant de la ligne éditoriale du journal avec moi évidemment, mais je peux dire ça. Des sujets
je pense
qui sont
qu'on peut le dire. Moi, je suis un peu dans le. Donc moi, je suis le rédacteur en chef. Donc je suis le bras droit d'Antoine. Et moi, j'ai plutôt lui là la vision d'ensemble et aussi la vision créative du magazine parce que c'est quand même un objet qui est pas seulement de l'éditorial. Et moi, j'ai plus les mains dans le cambouis éditorial, dans les papiers, dans ce qu'on veut dire. Mm-hmm. Donc voilà, c'est un duo qui fonctionne bien depuis effectivement assez récemment. Moi, je suis en fait Antoine était déjà là depuis la relance, je crois.
Ouais, non,
au digital,
un peu,
c'est ça.
Après, j'étais au digital. Donc après, j'ai eu les mains dans le cambouis. Hein. Enfin, je veux dire, le blog est fait, je le connais. On le fait encore tous les deux. On peut échanger nos rôles avec. Avec facilité, mais donc oui, j'étais au digital depuis 2019.
On sent depuis votre arrivée le magazine s'ouvrir à l'ensemble de la communauté LGBT comme une mue, une très bonne mue. Quelle était votre ambition ?
Très clairement, ma nomination était vraiment pour ouvrir le magazine sur toutes les lettres de l'acronyme. Et moi, c'est quelque chose que je vois, que je défends beaucoup parce que. Ma sœur est lesbienne, parce que j'ai des amis trans, parce que en fait, on a autour de nous plein de gens très différents et qu'il faut les accepter. Encore plus que ça, en fait, se battre pour eux, pour leurs droits. Donc voilà, c'était assez naturel pour moi d'aller dans cette direction, d'ouvrir et de célébrer toutes les identités et toutes les orientations amoureuses et toute la diversité de notre communauté.
Et puis oui, ça a un sens éditorial et politique. Je veux dire, c'est pas seulement un. Enfin, c'est évidemment un désir qu'on partage tous les deux. Et ça a d'autant plus de sens aujourd'hui que les combats politiques, par exemple, sont plus seulement axés sur la communauté gay. D'ailleurs, de moins en moins. Ouais. Et même la réaction en face. Les attaques que la communauté subit, on voit bien que ça s'est déplacé. Avant, c'était les homos. Maintenant, si vous écoutez attentivement ce que disent les réactionnaires de droite ou d'extrême droite, c'est l'idéologie du genre. Mmh. C'était la théorie du genre à la base. Maintenant, c'est l'idéologie du genre. Ils vont attaquer la question sur la question trans. De la même manière que les combats, enfin les avancées que Bilal représente concernent toute la communauté, il faut pas que la communauté gay se sentent protégés des attaques de l'extrême droite quand elles ciblent les trans. En fait, c'est juste un déplacement, mais c'est la même chose. C'est la marge qui est attaquée et c'est nous tous qui sommes attaqués.
Du coup, au sein de les rédactions, comment vous décidez des sujets abordés ? Comment ça se passe, la création d'un magazine ?
Vaste sujet. C'est un trimestriel déjà. Alors, ce qui peut paraître confortable... En vrai, ça n'est pas tant que ça, parce que ça demande beaucoup d'anticipation. Ça demande de comprendre en décembre ce qui fera sens. Là, en l'occurrence, le prochain numéro va sortir en mars. On est déjà en train de se plonger dans la lune de mars. Donc, il faut déjà anticiper aujourd'hui ce qui fera sens dans 3 mois.
Sachant qu'évidemment, tout va changer. En fait, c'est ça. On essaye toujours d'anticiper au maximum. Et puis, en fait, on se retrouve avec... trois idées différentes et ça change 2 semaines avant le bouclage. Et puis en fait,
on change tout avant le bouclage.
On change des choses, on change des choses parce qu'on veut aller vers le meilleur magazine possible et que si une idée est meilleure que celle qu'on avait, qu'on pensait avoir gravée dans le marbre, et on ira sur cette idée-là et on fera tout pour que ça marche, quoi. Donc c'est parfois un peu là sur ce numéro c'était chaud parce qu'en plus c'était chaud parce qu'on a commencé en septembre, on devait boucler mi-octobre mais du coup ça a changé, il y a des annulations, il y a des gens qui peuvent pas, il y a des choses qui se passent pas, il y a des photos qui marchent pas parfois on s'est retrouvé confronté à ça déjà et en fait tout peut changer, mais parce qu'on fait bosser, je sais pas, peut-être une cinquantaine de personnes. On parle de journalistes, de photographes. Il y a des articles qui marchent, il y en a qui sont ratés. Ça arrive à tout le monde. On n'est pas tous toujours bons et comment dire,
linéaire
dans le travail. En fait, on a tous des hauts et des bas. Donc parfois, il y a des choses qui marchent pas, d'autres qui marchent mieux. Parfois, il y a des choses qui marchent et des choses qui sont évidentes. Et alors, du coup, ces choses-là, évidemment, prennent ces sujets ou ces photos ou ces images prennent la place d'autres choses et c'est pour le mieux, je crois.
Vous êtes en train de dire qu'il y avait une autre couverture prévue ou pas du tout ?
Vous pouvez pas dire.
Non, on fait pas cette promesse parce que ça fâche tout le monde.
D'accord.
Parce qu'en fait, têtu, il y a beaucoup d'attentes quand on fait têtu. Donc, on ne fait plus la promesse de la couverture parce qu'après, les gens se vexent si finalement c'est pas ça. Donc voilà.
Et puis il y a aussi le fait, parce qu'il y a les choses qui marchent pas, les choses qui se passent pas, il y a aussi les choses qui se passent parce qu'on a beau être trimestriel, on est quand même d'autant plus parce que c'est un magazine qui est aussi politique. On est inscrit dans les débats du moment et dans les Bien thématiques sûr, ouais. du moment. Et par exemple, là, quand on était en train de... On était à 2 semaines du bouclage, quand Yanis, le gamin de 17 ans, ouais. s'est fait agresser à Montgeron de manière ultra-violente. Et ensuite, il y a eu le suicide de Dina dans le Haut-Rhin. Ça arrive 2 semaines avant le bouclage. Évidemment, c'est pas prévu au chemin de fer. Et évidemment, on peut pas passer à côté. Ouais, il faut que tu parles, il faut que tu abordes le sujet, il faut qu'on porte ces sujets-là et on peut pas attendre 3 mois plus tard. Et donc là, évidemment, on trappe, on fait de la place, on monte au créneau et on intègre.
Vous parlez notamment de l'article que vous signez sur le harcèlement scolaire.
Oui, bah ça, c'est
splendide. Enfin, je vous remercie.
Bah, je te remercie.
Il est magnifique.
Et bah oui, ça c'était c'est le dernier bouleversement qu'on avait apporté à ce chemin de fer, genre 10 jours avant le bouclage, parce que oui, ça nous semblait important de prendre la parole sur ce sujet-là, de parler aux gamins qui sont concernés, de parler à leurs parents, d'interpeller le gouvernement, de faire le bilan. Du coup, il y a 2 papiers, il y a un papier plus général sur le harcèlement et il y a un papier très focus sur qu'est-ce qui est fait ou pas à l'école, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui coince et pourquoi ça coince toujours. Et on le rappelle dans le magazine, en 2018, dans un des premiers numéros de la relance, Jean-Michel Blanquer était venu donner une interview à Tétu où on abordait ce sujet-là. On avait tout un dossier sur les gamins harcelés au collège, au lycée, les gamins et les gamines. Et en fait, 3 ans plus tard, retour, pas à la case départ, mais retour sur ce sujet de manière tragique. Et donc, on était obligé d'aller voir pourquoi ça coince et d'interpeller, de faire notre rôle. On a aussi un rôle de évidemment d'alerte, même voire de plaidoyer, quoi, d'interpeller le gouvernement pour qu'ils agissent plus fort, puisque manifestement, ça ne suffit pas.
Et alors, Thomas, vous venez de la rédaction de Marianne. On va être en année d'élection bientôt. Vous parlez du prochain numéro de mars. Comment Tétu va participer au débat politique ?
Alors déjà, Tétu va y prendre toute sa part. On a déjà commencé, en réalité, puisqu'on a commencé à faire les... on a interviewé tous les candidats de la primaire écolo. On a interviewé Jean-Luc Mélenchon dans le numéro de juin. Une longue interview de Jean-Luc, franchement... qui est très intéressante. Lisez-la, parce que moi, j'avais déjà interviewé Mélenchon pour d'autres titres dans le passé. Et là, on l'a amené sur des terrains, les nôtres, ceux de Tétu, qu'il n'a pas l'habitude d'aborder, et voilà, qui permettent quand même d'éclaircir des positions et d'avoir des réflexions. En l'occurrence, il fait tout un développement sur la non-binarité, qu'on n'attend pas du tout dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, et qui, je pense, font... avancer le débat au sens où, qu'on soit mélenchoniste ou pas, c'est pas le sujet, mais que en fait, quelqu'un de l'envergure de l'âge de Mélenchon et dans le camp qu'il représente, qui est pas toujours, qui est traversé aussi de tiraillements sur nos sujets, porter une parole moderne et ouverte sur la non-binarité, c'est pas souvent dans le monde politique. Mais donc, de manière générale, oui, voilà, on va interviewer tous les candidats possibles à la présidentielle. Non, on va faire des choix, mais on va faire des interviews, c'est ça que je veux dire. On va donner la parole aux candidats qui nous intéressent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va porter les sujets nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le devant de la scène les sujets qui nous semblent importants, les mesures qui nous semblent nécessaires d'intégrer dans le débat politique. Voilà, on ne va rien dévoiler pour l'instant, mais clairement, le numéro de mars sera plutôt politique.
Oui, parce que face à la droitisation des débats actuellement, ça ne sent pas bon, en fait.
Ça ne sent pas bon, et de manière... plus global que le débat sur la présidentielle, dans le numéro d'avant, là, celui où il y avait, celui de la rentrée là, on avait fait un gros dossier sur l'Europe, notamment avec un reportage en Hongrie et un autre reportage en Pologne, les 2 pays où qui prennent une direction clairement d'homophobie d'État, puisque l'homophobie là-bas est portée par directement les gouvernants. Et donc ça, c'est aussi un sujet sur lequel on est très présent sur l'Europe depuis cet été. Ce qui est en train de se passer en France avec la progression du discours de Zemmour, le fait qu'il déteigne, enfin en tout cas qu'à droite, on revient sur ces bases-là aussi, en fait, fait complètement écho à ce qui se passe en Hongrie et en Pologne. Donc pour nous, c'est vraiment c'est un sujet sur lequel on va être présent en permanence. Et c'est un sujet sur lequel on veut montrer ce qui est en train de se passer, qu'effectivement, c'est pas juste... un opportunisme de passage en France, ça s'inscrit dans une vraie réaction dans les sociétés occidentales. Et c'est intéressant de le voir parce que quand on attaque les trans, les personnes trans, quand on attaque l'idéologie du genre, en fait, tout ça s'inscrit dans une réaction qui est globale dans les sociétés occidentales. On a vu Trump aux États-Unis, c'est en train d'arriver en Europe et il va falloir qu'on soit très vigilant. Et évidemment, Tétu sera hyper présent là-dessus.
Waouh!
Enfin, on va essayer.
Ah ouais,
on a des choses à dire.
Bah, il faut prendre la parole, justement. Il faut, je pense que c'est important aujourd'hui, mais même quand, plus global, quand on parle, quand on insulte une communauté, que ce soit l'islam notamment, on insulte les musulmans, un jour ou l'autre, si on laisse faire, on laissera faire sur d'autres communautés. Donc c'est en ça où c'est vraiment essentiel, je pense, pour un média comme Têtu, de prendre toute sa part dans ce débat-là.
Oui, et c'est quelque chose qu'on partage aussi avec Antoine, je crois, la volonté. En fait, le magazine, il y a une volonté qui soit hyper positif, que ce soit un objet agréable, une lecture agréable, qui est de la culture, qui est des choses qui nous ouvrent.
Des rôles modèles aussi pour inspirer.
Et toute une partie aussi qui soit très politique et qui assume de dire des choses et qui assume de prendre la parole. Pas au nom de la communauté, puisqu'en fait on relaie plein de paroles de la communauté, on relaie les associatifs, on relaie les politiques qui sont sur le sujet, mais quand on pense qu'il y a une position à prendre, on la prend et on essaye de marcher sur ses deux jambes, quoi.
Ce que Têtu faisait pas forcément avant, est-ce qu'il y a un changement de braquet ou pas ?
Peut-être que c'était moins visible, peut-être que ça se faisait avec moins d'assurance, parce que en fait, Têtu se repose sur un socle d'abonnés qui est là depuis longtemps. Il y a beaucoup de fans, de gens qui collectionnent Têtu depuis longtemps. C'est difficile de prendre des positions aujourd'hui qui peuvent avoir l'air, et je mets des guillemets avec mes doigts, woke, parce que ça peut. En plus, c'est des gens qui sont tous très différents,
bien sûr,
et qui votent très différemment. Donc, c'est difficile aujourd'hui d'imposer. Nous, je pense, avec Thomas, on pense vraiment que c'est notre rôle d'amener les gens à réfléchir et de leur donner toutes les clés pour comprendre le monde, pour comprendre ce qui se joue aussi quand on questionne le genre, quand on parle d'homophobie, quand on parle de je sais pas, de changement d'état civil. En fait, l'idée, c'est vraiment de donner aux gens et à tous et toutes, du coup, dans notre les clés de compréhension de toutes les thématiques qui traversent la communauté.
Mais enfin, dans ma bouche, c'était pas une critique hein, sur les anciens numéros de Têtu. Je tiens à le dire parce que j'ai vécu les débuts de Têtu. Je l'ai acheté, hein, je devais avoir 17 ans quand c'est sorti première fois, 16 ans, je crois. L'existence même du premier numéro de Têtu à cette époque-là, dans ce contexte-là, de le milieu des années 90, est une existence politique. En soi, c'était un acte politique. Donc, évidemment, que ça évolue, je trouve ça. Évidemment, en tant que lecteur, vieux lecteur, jeune boomer, je trouve ça génial. L'évolution est très intéressante. Mais à mes yeux, c'était absolument pas une critique des numéros.
Non, je ne l'ai pas du tout pris comme une critique, mais effectivement, Têtu est né politique, est né militant. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, c'est un peu effacé avec le temps. Parce que à cause d'un modèle économique, en fait, on a dû, et je dis ça, on parle de 25 ans d'histoire de Têtu, hein, mais on a dû faire rentrer de la mode pour attirer les annonceurs. Et c'est normal, c'est un modèle économique. Si on veut que Têtu existe, il faut qu'il ait de l'argent pour payer ses journalistes, qui sont des bons journalistes, parce qu'on ne peut pas faire un média bénévole, en fait. Mais je pense qu'à un moment, Têtu s'est un peu perdu. Là-dedans, peut-être. Et puis, c'était énormément de gens. À l'époque où Pierre Berger alimentait, c'était des millions d'euros par an.
C'était pas les mêmes époques. Enfin, ça a traversé quand même beaucoup d'époques.
Exactement. C'est fou. C'est un journal qui a une histoire qui est vraiment des passages très différent. Il y a Têtueux qui a existé à un moment très rapidement, mais en fait c'est marrant parce que quand on sort les anciens numéros de Têtu, en fait il y avait des femmes, il y avait des lesbiennes en couverture. Non, parce qu'on a toujours cette image des mecs musclés,
oui, bien sûr,
qui sont en fait le Têtu des années 2000.
Mais en même temps, on l'achetait aussi pour ça.
Attention.
On pouvait l'acheter pour ça, hein, Têtu, parce qu'il y avait un beau mec musclé.
Mais justement, tout à l'heure.
Et que c'était pas du porno, pardon.
Non, et puis c'était politique. En fait, il faut pas faire d'anachronisme. Effectivement, l'existence de Têtu est déjà politique. Les combats que Têtu a apportés dès le départ sur le simple fait de la visibilité, les combats sur le VIH aussi, qui évidemment sont moins prégnants aujourd'hui, non pas parce que le VIH a disparu, mais parce que tout le combat de militantisme, de plaidoyer auprès des laboratoires pour que les trithérapies soient accessibles à tous, etc. etc. C'était un combat de l'époque que Tétu a énormément porté.
Bien sûr.
Et parce qu'il y a aussi
c'était des... le seul média qui parlait quand même de globalement et tous les mois du SIDA.
Bien sûr. Il y avait un gros cahier qui expliquait tous les mois, puisqu'à l'époque il n'y avait pas Internet, les plus jeunes ne s'en souviennent pas. mais on n'avait pas Internet à l'époque. Et donc il fallait un gros cahier, et c'était le cas dans Tétu, pour expliquer les avancées de la trithérapie aux lecteurs pour qu'ils puissent être traités le mieux possible. Et sur les cover boys, par exemple, c'est pareil, c'est anachronique d'opposer un Tétu politique d'aujourd'hui à un Tétu qui serait celui des cover boys de l'époque. Bien parce sûr. Qu'en fait, à l'époque, afficher des cover boys, afficher à la fois des corps masculins sexy dans des kiosques, ça avait du sens. C'était aussi à une époque où justement la communauté gay était marquée par les stigmates du VIH et par cette image qui collait à la peau des gays, des corps décharnés, des corps abîmés par le VIH, et donc montrer des gays qui vont bien, qui sont heureux, oui, ça avait du sens, c'était politique aussi. Et donc, parce qu'on a souvent ce reproche aussi, enfin ce reproche... Il y a des lecteurs de la jeune génération, plus politiques au sens actuel du terme, qui nous reprochent parfois, qui nous ressassent ce passé des cover boys. Mais alors moi je suis arrivé à Tétu après, et Antoine aussi en fait, mais on n'a pas du tout honte de cette histoire, et au contraire, c'est vraiment, ça fait partie de l'histoire de Tétu, tout ça est un continuum, et quand on disait Tétu est plus politique aujourd'hui, pas au sens large du terme, oui, non, au sens éditorial, c'est-à-dire que oui, on n'ose plus affirmer des positions éditoriales. Pourquoi on le fait aujourd'hui plutôt qu'avant ? Parce que c'est pas un exercice facile au sens où notre volonté à Antoine et moi, c'est absolument pas de dire aux gens ce qu'il faut penser. On n'est pas le Figaro Magazine, on n'est pas Marianne. on n'est pas là pour vous dire quoi penser ni quoi voter. On est effectivement là pour apporter le plus de clés de compréhension possible et pour porter des discours. On parlait de Mathieu Delormeau tout à l'heure. On essaye d'arrêter le bashing au sein de la communauté. En tout cas, c'est pas à nous de le porter. Nous, on est là vraiment pour créer des ponts au sein de cette communauté, que les gens se parlent. La remarque de Mathieu Delormeau n'a aucun sens pour nous si on n'évoque pas, si on n'aborde pas la question de l'homophobie intériorisée, d'où elle vient, etc., etc. Et donc vraiment, c'est le côté politique de Tétu, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'affirmer de prendre des positions sur les débats qui nous traversent, pour montrer qu'en fait, on peut se parler et qu'on peut faire avancer nos droits tous ensemble, même si on n'est pas tous d'accord tout le temps au sein de la communauté.
Bah, surtout si lui, après, on revient à Mathieu Delormeau, mais c'était pas une attaque, hein, mais si lui, après, peut faire son mea culpa et défendre la couverture de Tétu. C'est que le boulot est fait, en fait, parce que le dialogue fonctionne, en fait, la conversation. On peut converser, en fait, et pas débattre. Et je pense que c'est important, en fait, d'être sur ce terrain de la conversation, surtout aujourd'hui, où tout est un peu méga tendax.
Bah, c'est ça, c'est que tout le monde connaît, voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, la polarisation des débats, le fait qu'ils soient très, très âpres. Et je pense que la vocation d'un magazine, de la presse en général d'ailleurs, de la presse écrite en particulier, d'un magazine a fortiori, c'est vraiment de créer de la discussion plutôt que des clashs. Et ce serait tellement facile pour nous de faire un édito sanglant pour épingler Mathieu Delormeau et le mettre hors de la communauté, mais ça n'a aucun sens.
C'est faire le jeu des homophobes aussi.
Quand on se déchire entre nous, en fait, on fait le jeu des réactionnaires.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, c'est intéressant cette histoire de droite-gauche parce qu'en fait, on a des lecteurs chez Tétu qui sont de droite. D'ailleurs, il y a des associations LGBT qui sont de droite, David et Jonathan, enfin de droite catholique, David et Jonathan, gay libre, libéral, centre-droit, etc. Alors, moi, je suis pas là pour dire qui est le bon gay, qui est le mauvais gay. Est-ce qu'on a un bon gay quand on est libéral ou pas ? C'est pas le propos de Tétu. Le propos de Tétu, c'est faire en sorte que tous ces gens-là se parlent et qu'on voit ce qui fait commun entre nous et ce qui peut faire avancer nos causes dans la société.
Bah, c'est un peu ce qu'Alice Coffin dit dans Le génie lesbien. On la cite beaucoup, c'est visible. Mais c'est vrai qu'elle n'attaque jamais les femmes. Parce que d'autres s'en chargent et du coup, elle combattra toujours plus un discours d'homme qu'un discours de femme et ça s'entend.
Bah, c'est intéressant que tu cites Alice Coffin déjà parce qu'on l'a, on a un dossier sur les personnalités de l'année derrière Bilal Hassani et elle est distinguée en politique, personnalité de l'année. Moi, je pars du principe que je ne critique pas, en tout cas, je n'exclus pas du débat des personnes LGBTQ, quelle que soit leur position, en fait. Effectivement, il y a assez de quoi se faire attaquer par les réactionnaires pour pas en plus se déchirer entre nous et s'excommunier entre nous.
Vous parlez de l'article sur Alice Coffin. Il y a aussi un article avec Rokeya Diallo.
Déjà, je pense qu'Alice Coffin, par son exposition, par les risques qu'elle prend, par ce qu'elle apporte au débat, méritait à mon avis, et à notre avis, à toute la rédaction, de la place de personnalité politique de l'année. Et sur Rokhaya Diallo, en fait, l'idée, c'était vraiment encore de donner les clés de réflexion. On a fait avec Rokhaya Diallo un format assez marrant, on s'entend, je veux dire, on se marre pas, mais
non, un mais format... C'était un peu ludique.
Un peu ludique, où on déconstruit les idées reçues sur le wokisme, et sur ce que on essaye de savoir un peu ce que c'est le wokisme. Ouais. Et comme elle est une des figures de ce que les gens associent au wokisme, entre guillemets, encore une fois. Voilà, c'était important pour nous de la voir. Et si des gens ne veulent pas voir Alice Coffin ou Rokhaya Diallo dans Têtu, moi, la seule chose que j'ai à leur opposer, c'est lisez au moins l'article en question, parce que si elles sont là, il y a une raison. Et vous pourrez, après avoir lu l'article, dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais en fait, il ne faut pas avoir une sorte d'a priori en disant ah non, moi je suis universaliste, je ne lirai pas l'article avec Rokhaya Diallo. Il faut le lire et après se faire une idée et puis peut-être aller lire d'autres choses ailleurs.
Enfin, aller lire Le génie lesbien.
Exactement.
Mais oui, qui mérite d'être lu.
Complètement.
Et puis par ailleurs, Têtu est un tout. Enfin, de la même manière qu'on n'a pas, à dire quoi voter, quoi penser, on apporte le regard de Rokhaya Diallo sur le wokisme, parce que c'était pareil, c'était dans les sujets inratables du moment où il fallait qu'on en parle. Vous tournez la page, vous avez un long entretien avec Geoffroy de Laganerie qui vient de publier un livre où il s'interroge sur les conséquences post-MeToo sur les marges, donc sur nous. Et alors, il a une réflexion qui n'est pas du tout consensuelle, mais qui est très argumentée. On a pris le temps d'en discuter avec lui, etc., etc., pour qu'il expose son point de vue et où il interroge, alors évidemment pas la libération de la parole des femmes, ni le statut des victimes qui sont exprimées, etc. Il rappelle le fait que quand une société commence à s'occuper de plus en plus des questions de vie privée, vie sexuelle, etc., etc., le retour de bâton peut ne pas être loin. Pour les personnes à la marge. Et donc, il a toute une réflexion là-dessus. Et tout ça pour dire que, voilà, c'est les pages de fin du magazine. Il y a Rokhaya Diallo, il y a Geoffroy. Il y en aura d'autres la prochaine fois. L'idée, c'est vraiment d'aller piocher dans tout ce que la communauté produit comme pensée constructive pour l'apporter au lecteur.
Oui, ce que vous dites, ça permet le dialogue.
Le dialogue, la réflexion. Enfin, je veux dire, si vous n'êtes a priori pas d'accord avec Rokhaya Diallo, vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas à l'abri d'être surpris, d'être d'accord avec ce qu'elle dit dans Têtu, et vice-versa. Enfin, vraiment, l'idée, c'est de nourrir les gens.
Et justement, cette nouvelle version, c'est quoi les réactions des lecteurs et lectrices?
En fait, c'est assez surprenant, parce que les gens suivent beaucoup. On avait un peu cette idée que justement notre lectorat était, enfin en tout cas nos abonnés historiques qu'on adore, étaient peut-être allaient être déstabilisés. Et en fait,
peut s'entendre
complètement. Et dans la globalité, les gens, nos abonnés comprennent très bien ce repositionnement parce qu'il s'inscrit dans une époque et parce qu'aujourd'hui les combats sont sur le front LGBTQI+, et plus seulement sur la partie gay.
Et puis, parce qu'on a l'air d'avoir Thomas. Fait un magazine complètement nouveau, mais évidemment, les fondamentaux sont là. Il y a des papiers où on parle de cul. Dans ce numéro, il y a une nouvelle de Jean-Baptiste Delameau, qui est un auteur gay, qui est pris du roman Fnac cette année. Qui a une très belle plume, enfin évidemment, c'est pas à moi de dire ça, mais qui a une plume que moi personnellement je trouve extraordinaire, très belle et très, très classique, très bref, lisez-le, et qui nous a produit en l'occurrence une nouvelle exclusive, il l'a écrite pour Têtu, qui se déroule dans l'univers d'une bande de garçons à l'âge de l'adolescence, avec plein de réminiscences sur nos propres adolescences, les désirs qui naissent, en l'occurrence le beau gosse un peu, je sais pas comment le qualifier.
Ça rappelle des souvenirs.
Ça rappelle des souvenirs. Bah, c'est le beau gosse complètement hétéro as fuck sur lequel on lorgnait au bord l'été en short de bain. Bon, bah voilà, il rappelle tout ça. Donc il y a aussi évidemment, enfin, dans LGBTQI, on aborde toutes les cultures, dont la culture gay, évidemment.
Alors moi, je voudrais revenir sur un épisode qui s'est passé au dernier l'avant-dernier numéro avec Marina Foïs en couverture. Vous l'avez titré « Queer Queen ». Il y a une réaction de la part de certains militants, de la part de Kiddy Smile. Il a réagi sur cette couverture sur Instagram. Est-ce que vous avez compris son point de vue et est-ce que vous avez dialogué avec lui?
On n'a pas dialogué directement avec lui, mais on a compris son point de vue. Et je pense que c'était bien parce que son poste a été hyper partagé. Alors, ça a fait un travail de pédagogie, ça a ouvert une discussion. Mmh. Et ce qui est, nous, ce qu'on recherche, en fait. Après, je ne dirais pas que c'était ce qu'on recherchait en nommant Marina Foïs Square Queen. Il s'avérait que Marina Foïs avait joué dans La Fracture, qui est un super film, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais c'est vraiment un film assez époustouflant, qui est à la fois drôle et politique, et dans lequel elle joue la moitié d'un couple lesbien. Et ce film avait obtenu la Queer Palme à Cannes. Et Marina Foïs s'est engagée depuis longtemps dans la défense des droits LGBT. Elle a beaucoup, elle en parle très souvent.
Mais elle n'a pas joué Guibert avec Honoré.
Elle a joué Guibert avec Honoré. Elle raconte assez, avec beaucoup d'émotion, les amis qu'elle a perdus pendant l'épidémie de SIDA. Voilà. Pour nous, c'est vrai que ça peut avoir paru être un raccourci pour certains et certaines. Mais voilà, pour nous, Queer Queen, après, c'est un titre de presse. Et puis, qui sommes-nous pour préjuger que Marina Foïs n'est pas queer? Moi, c'était un peu mon interrogation. Mais qui sommes-nous pour présumer de son orientation sexuelle? Voilà, c'était une question. Mais moi, je suis toujours content qu'on discute et je suis toujours content qu'on réagisse. Et têtu doit aussi servir à ça. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans la réponse qu'a fait Marina Foïs dans un média, elle dit moi, si on s'essuie sur moi et que ça peut aider les gens à apprendre quelque chose, je suis content de pouvoir le faire. Et je pense que c'est pareil pour Tétu, en fait. Moi, ça me dérange pas si on nous érafle, mais qu'on apprend quelque chose à la fin.
Quoi. C'est pas vraiment elle qui était visée, du coup.
C'était nous, évidemment. Ouais.
Mais après, est-ce qu'on n'est pas encore plus critique en tant que LGBT sur un média LGBT?
Si, enfin, attention, parce que quand vous dites ça la visait pas elle, faut quand même pas oublier ça. Je le dis aux gens qui critiquent, évidemment, la critique est libre, mais parfois, enfin, moi j'étais étonné quand même de la virulence de certaines réactions à ça, parce qu'en fait, quand même, l'artiste, en l'occurrence, qui est une alliée, comme tu l'as dit, de longue date, les lit et les entend. En l'occurrence, c'était pas évidemment son choix, le titre, c'était le nôtre. Là, par exemple, enfin, je ne suppose pas que Bilal Hassani soit hermétique aux critiques qui peuvent être émises sur les réseaux sociaux par les homophobes. Et en fait, Marina Foïs non plus. C'est-à-dire que tout de même, il y a quand même des gens derrière. Et sur ce titre, oui, alors il y a ce côté, mais Tétu est une institution, donc on peut l'attaquer. Enfin, allez-y, il n'y a pas de problème. Simplement, il faut aussi prendre un peu de recul.
C'est qu'un titre.
C'était qu'un titre, c'était une allusion à la Queer Palme, et c'était surtout une marque d'affection, de respect, de soutien à une alliée. On a vocation aussi à montrer au monde extérieur que des personnalités de cette envergure sont avec nous. On a aussi vocation à les reconnaître. La réflexion de Kiddy Smile sur le mot queer et tout, s'il y a des gens parmi ses followers qui ne connaissaient pas cette histoire, c'est intéressant de le souligner.
Bien sûr. Bah, est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est Tétu qui est dans le paysage depuis 25 ans? Donc quoi que vous fassiez, à un moment ou un autre, de toute façon, on vous est attaqué, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu comme Madonna, dès qu'elle fait un truc, elle se fait attaquer. Vous êtes un peu la Madonna du magazine.
Non, mais c'est vrai qu'il y a, peut-être ce côté, puisque Tétu est là depuis longtemps. Tétu est une institution, et du coup, on s'attaque toujours un peu aux institutions, parce qu'elles représentent... Elle représente quelque chose contre le fait, c'est marrant, les institutions, on se construit avec et on se construit contre.
C'est ça.
Et du coup, je pense que c'est un rôle auquel on n'échappera pas, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il y aura toujours des critiques.
C'est un peu comme si finalement Tétu appartenait à l'ensemble de la communauté LGBT. Et du coup, dès qu'il y a un truc qui froisse une des personnes, c'est genre, oh, ils m'ont fait ça.
Exactement. Et sachant que vraiment, on essaye d'être, il faut pas oublier que c'est des humains, très peu en plus derrière, parce que souvent, comme il y a des campagnes d'affichage sur les d'autres kiosques et tout, on se dit, ah bah Tétu, ils sont 45, et puis non, en fait, à la rédaction, on est 5. On a évidemment des pigistes, etc. Mais en fait, mais des gens qui travaillent à plein temps sur le site internet, sur le magazine, y en a finalement assez peu. Et on ne peut pas tout couvrir. Déjà, ça, c'est quelque chose à assimiler, même sur le web. On ne peut pas tout couvrir parce qu'on n'a pas la force de frappe. Et évidemment qu'on ratera des choses. Évidemment qu'on sera peut-être parfois moins rapide sur des sujets que la presse nationale qui commence à s'emparer de ces questions-là aussi. Voilà, on peut, et forcément, on se fera attaquer pour ça. Mais c'est important de se souvenir de ça et de se souvenir, un peu comme même avec les personnalités d'ailleurs, que derrière Têtu, il y a des humains. Il faut, je crois, se calmer vraiment, enfin, discuter avec beaucoup plus d'ouverture plutôt que d'être dans une réaction, parce qu'en fait, il y a vraiment des gens qui lisent les commentaires, qui les modèrent tous les jours, et parfois, c'est dur. Donc juste un petit message à la commu. Si vous lisez Têtu et que vous n'êtes pas d'accord, dites-le de façon cordiale. Voilà.
Mais d'autant plus que ta remarque, elle est juste quand tu disais ça, les gens ont l'impression que le journal leur appartient. Évidemment qu'il leur appartient. Enfin, ça, quand à chaque fois je reçois un DM ou une remarque constructive qui soit pas juste une insulte sur Twitter, j'essaie d'y répondre, Twitter ou Instagram, enfin peu importe.
Tu as un avalanche de messages.
Bon, je réponds pas à tout. Non, mais je veux
dire, on a dit constructif.
Ça élimine. Non, mais on a ce dialogue. On n'est pas dans notre tour d'ivoire à expliquer ce que doit être. Qui doit être Kirk Queen, etc., etc. Non, on discute, on est évidemment dans nos vies personnelles plongés dans ces thématiques aussi. Et en tant que journaliste et à la rédaction en chef et à la direction du journal, évidemment qu'on écoute, qu'on intègre, qu'on réfléchit, qu'on débat d'ailleurs aussi à l'intérieur du journal. Enfin, tout ce travail, il est fait. Donc, tout ce qui vient de l'extérieur de nos lecteurs et qui peut nourrir ça, évidemment, on prend. L'appel d'Antoine que je rejoins, évidemment, c'est de dire, mais... des gens, on subit déjà suffisamment, la communauté, d'attaques des réactionnaires et des homophobes et des transphobes et des LGBT-phobes pour pas en plus se déchirer entre nous. Et on revient sur le mot d'Alice Coffin que je valide complètement, c'est choisissons nos combats.
Ouais, clairement, ouais. J'aimerais qu'on parle un peu de vous. Antoine, vous avez commencé où ?
Moi, j'ai commencé... alors, c'est étonnant. Moi, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Têtu pendant le mariage pour tous. J'étais au web avec Fabien Victor, Paul Parent, Marie Kirchen et Mélanie Vives, que j'embrasse. Et c'était très formateur. Je suis resté 6 mois. C'était un peu étrange parce que c'était juste avant, que Pierre Berger vende le magazine. La rédaction était en fait Pierre Berger venait d'annoncer la vente. La rédaction était un peu
morose,
quoi. Et le mariage pour tous chez Têtu a été abordé dans ce contexte. Et du coup, on m'a laissé un peu. Moi, j'étais jeune journaliste, j'avais envie et j'étais hyper motivé et tout donc. Donc c'était chouette. J'ai passé pas mal de temps à l'Assemblée avec Paul, traité du mieux qu'on a pu dans le contexte, mais c'était hyper formateur. Et donc moi j'ai cette histoire-là avec Têtu. Et ensuite j'ai fait de la presse économique, ensuite je suis allé à l'Obs, ensuite...
Donc t'as été out tout de suite ?
Je pense que quand on postule chez Têtu, c'est difficile de... en fait, c'est marrant parce que cela dit, aujourd'hui, il y a des hétéros qui postulent chez Têtu. Ouais. Mais non, à l'époque, évidemment, oui, j'étais out tout de suite. Et il y avait ce truc où pour moi, c'était le magazine que j'achetais quand j'avais 15 ans, que j'ai pris mon premier train pour aller dans un festival et je l'avais caché, puis voire je l'avais jeté après l'avoir lu. On a tous ce rapport au Têtu, enfin tous les hommes gays en tout cas. Qui ont lutté dessus, du coup, parce que sinon ça... mais je pense qu'on a tous un peu ce rapport intime avec Têtu, qui nous a aidé à nous accepter, qui représentait à la fois tout ce qu'on avait envie d'avoir, d'être, et l'interdit en même temps.
C'était tellement une émancipation de l'acheter. L'acheter dans un relais, un kiosque ou autre.
Et en même temps, j'étais pas fier. Je l'ai attrapé, je l'ai mis sur le comptoir, et puis j'ai dit merci. Et je me suis barré en cachant la couve, quoi. Et du coup, j'avais débarqué tout pimpant de mon école de journalisme. Mais en fait, j'avais même fait un stage chez IAG avant, donc si tu veux.
Ah, d'accord.
Ouais.
IAG était un site internet.
Tout à fait, dédié aux questions LGBT, dont les archives sont disponibles sur Committed. Ouais. Et en fait, donc moi, j'ai cette histoire quand même où j'avais fait mes stages dans la presse communautaire. C'est un truc que moi, j'ai toujours trouvé important et dans lequel je me suis épanoui, dans lequel j'ai grandi. Donc, pour moi, ça fait sens aujourd'hui.
C'est une chance,
d'être là.
Et du coup, Thomas ?
Alors, moi, si je vous déroule le truc, allez m'exclure de la communauté. Non, les journaux.
T'as commencé chez Valeurs Actuelles ?
Non, alors, c'est marrant parce que moi, mon premier contrat que j'ai signé à la sortie de l'école, C'était La Croix.
Ah.
Service Monde de La Croix. La Croix est un très bon journal qui a un très bon service monde, un très bon service société, politique. C'est un journal très sérieux et qui, même sur nos sujets d'ailleurs, évidemment, ils ont des positions qui ne sont pas les nôtres, mais le fait respectueusement.
Du coup, c'est La Croix au début, t'es out ou tu vas dans le... Ouais, t'es out.
Je suis out.
Et on t'empêche, est-ce qu'on t'empêche de travailler sur les sujets LGBT ou pas?
Alors, il n'y en avait pas beaucoup parce que... Alors, là, c'était un contrat de 3 mois. C'était vraiment mon tout premier contrat, c'est pour ça que je le citais. Quand la question est venue sur le tapis, oui, on m'a laissé. Mais après, je suis allé au Figaro. J'étais journaliste. Oui. Non, mais moi, mon idée, c'était plutôt d'aller faire de l'entrisme. Ouais. Bon, c'était pas qu'une idée. Après,
c'est dans la gueule du loup qu'on ne se fait pas mordre.
Non, c'est vrai. Non, mais en tout cas, bon, évidemment, vous faites avec les nécessités économiques du moment, etc. Mais aussi, parce qu'évidemment, dans ma tête, j'avais aussi... c'était important pour moi, dès le départ, d'être clair sur ces sujets-là et de pouvoir les défendre du mieux que je pouvais, où que je sois. Et quand je suis arrivé au Figaro.fr, qui était à l'époque une rédaction indépendante du Figaro, c'est-à-dire qu'il y avait... c'était le début des années... c'était des années 2006-2007, par là, 2009. Les sites Internet, à l'époque, n'avaient pas fusionné avec la rédaction en print, étaient assez libres, ce qui a donné au Figaro.fr une atmosphère beaucoup plus favorable que plus tard. Et donc, j'ai toujours été à out aussi au Figaro.fr. Il y avait
discrimination ?
Non, dans aucune des rédactions où je suis passé, il y a eu des débats, il y a eu des individus plus ou moins
malveillants.
Bienveillants, j'allais dire, tu vois. mais jamais de problème spécifique, jamais de bronca. Je m'affirmais assez vite. Je me souviens d'ailleurs au Figaro, parce que vous n'arrivez pas avec votre rainbow flag en criant partout que vous êtes.
Pourquoi
pas? Non, j'aurais pu, mais bon, on vise le CDI, donc on essaye au départ de se couler dans la masse. Mais le moment, je crois, où ça a émergé, où tout le monde a compris, c'est quand j'avais proposé à l'époque, le rapport de SOS Homophobie du 17 mai n'était pas forcément relayé par tous les médias, et pas par les médias généralistes, et pas forcément par Figaro.fr. Et c'est le matin où j'ai proposé ce sujet-là, et qu'on me l'a refusé, et que j'ai insisté, et qu'on m'a refusé, et que j'ai insisté, et que j'ai fini par l'obtenir, que je crois que tout le monde a compris d'où je venais, d'où je parlais. Et donc, à partir de là, c'était quand même assez identifié, on m'a foutu la paix sur le fait de pouvoir traiter ce sujet-là.
C'est marrant parce que en fait, on revient toujours à Alice Coffin à un moment ou à un autre. Mais dans le génie lesbien, elle explique bien que dans 20 minutes, en pleine période de mariage pour tous, on lui interdit totalement de traiter de l'actualité LGBT.
Moi, c'est marrant parce que j'étais un peu en parallèle.
C'est 20 minutes, quoi. C'est pas le Figaro.
Moi, à l'époque, j'étais chez Métro, donc l'autre gratuit.
Ah oui.
Pile poil aussi au moment du mariage pour tous. Alors, moi, on m'a pas interdit de traiter ce sujet-là. De toute façon, je m'étais un peu... pareil, je n'avais pas laissé beaucoup de place. Mais il y avait même un débat, par exemple, sur l'utilisation, je me souviens, de mariage pour tous, l'expression. C'est-à-dire qu'au départ, c'était pas... Maintenant, on le dit tous. Mais au départ, c'était pas évident. Évidemment, les médias généralistes étaient partis sur mariage homo, mariage gay. J'ai signalé assez vite qu'il fallait qu'on change de formulation. Et là, j'ai eu une bronca, en revanche, d'une partie de la direction. Oui, parce que ils percevaient ça comme venant du militantisme. Et c'est vrai que c'était une expression qui avait été popularisée, mise en avant et popularisée par les militants pro-mariage. Et donc, au début, ça coinçait pour ça. Donc, il a fallu faire un travail de pédagogie, de conviction et puis surtout de ténacité, parce qu'à un moment donné, il faut tenir. Mais c'était passé.
C'est fou ce truc du mariage pour tous. C'est vrai que même encore, il y a des rédacs qui l'utilisent, alors que c'est mariage gay, je veux dire, ou mariage homo. Alors que
juste le mariage, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis c'est juste une question de.
Oui, mais on pouvait pas. Enfin, il faut quand même être honnête sur le l'exercice journalistique. On pouvait pas titrer mariage de point des manifestations à Paris. Enfin, il fallait quand même dire
génial,
de quoi en parler. Oui, remarque. Pourquoi pas.
Les gens défilent contre d'autres personnes le droit de se marier.
Oui. Non, mais je suis évidemment.
Le mariage. Problème. Des gens sont contre le mariage en France.
L'annuler ou pas ?
C'est ça ?
Mais oui.
Ce serait drôle de retourner dans ces archives et de barrer le mot pour tous.
Mais c'est marrant, c'est ce qu'Antoine dit, mais c'est que comment les choses ont finalement évolué assez vite. C'est-à-dire que quand même, ça, c'était un débat qui était loin d'être acquis en 2013. C'est pas si vieux. Où on était là à devoir convaincre des rédactions qu'il fallait dire mariage pour tous, que c'était pas le mariage homo, mais le mariage dans le meilleur des... Enfin, s'il faut dire homo, le mariage des homos. Et ça a été... Alors que... Il y a encore des médias qui le font par raccourci, mais en tout cas, je pense que quand même tout le monde a compris la différence aujourd'hui.
Ouais.
D'ailleurs, ce débat et d'autres, mais ont permis après 2013 la création de l'association des journalistes LGBT, qui justement, en fait, où chaque journaliste LGBT dans sa rédaction œuvre un peu à la pédagogie sur ces questions-là, et ils mettent à disposition des outils pour les rédactions, et au-delà du fait qu'ils nomment des personnalités de l'année ou qui seront peut-être plus légitimes que les nôtres, je sais pas, mais du coup, en fait, ça a permis quand même ces débats au sein des rédactions, une sorte de rassemblement des journalistes LGBT et une organisation en fait de comment on fait de la pédagogie dans les rédacs.
Et comment on parle des sujets LGBTQIA+. Ils ont un kit à disposition.
Complètement. Mais en fait, c'est vraiment ces débats qu'on a tous connus en tant que journalistes LGBT au moment du mariage pour tous dans nos rédactions, qui ont permis l'émergence de ça. Et du coup, c'est super.
C'est une bonne chose finalement dans tout ça. Bonne chose. On arrive quasiment à la fin de l'émission. Il me reste deux questions. La première question qui vient souvent d'Invisible, parce que j'aime bien questionner ça d'un point de vue personnel. C'est toujours difficile de se construire quand on est différent, un petit garçon différent. Vous, Antoine, est-ce que vous avez eu des modèles fictionnels, fictifs ou réalistes qui vous ont aidé à vous construire, auxquels vous êtes identifié pour vous aider quand vous étiez petit et que vous étiez en plein questionnement ?
Oh, dame. Ben, en fait, c'est marrant parce que cette question, elle est assez piège, je trouve. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, si je cherche, je pense que ce sera un peu, j'ai aimé Britney Spears à la folie. Je me suis déguisé en elle. Je chantais ses chansons, je faisais du playback, je dansais. Je pense que ça a participé peut-être à ma construction. Mais en fait, encore une fois, on a manqué, et même ma génération, parce que je suis né en 90, on a manqué d'icônes visibles. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on mettre Bilal en icône en couverture, c'est naturel, parce que je veux qu'on dise aux jeunes, voilà, vous pouvez vous identifier à ça ou à autre chose, mais vous avez des choses pour vous aider à vous construire des modèles de gens qui vont jusqu'au bout de leurs rêves et qui sont LGBT et qui l'assument et qui le vivent pleinement. Et je trouve ça beau et ça m'aurait aidé, je crois.
De ouf. Et toi, Thomas ?
Alors moi, non, pas du tout. Oui, on manquait de représentation. Et moi, j'ai vécu toute ma jeunesse, enfin mon enfance, mon adolescence et le début de la vie adulte, complètement dans le placard, complètement dans le rejet. Je me retrouve beaucoup dans le récit de Wissam El Gassem, son bouquin qu'il a écrit sur son... il explique comment qu'elle a vécu de nombreuses personnes LGBTQI à plus, qui est le rejet, enfin le combat de. Alors si il y en a, mais c'était pas une aide. Je me souviens de, sans vous spoiler la fin, mais la confusion des sentiments de Stefan Zweig, l'auteur autrichien qui avait écrit Le joueur d'échecs, etc. Et en fait, dans La confusion des sentiments, il aborde ce sujet-là du combat de la haine de soi-même et du combat de soi contre soi. Donc ça m'a nourri, mais pas dans le bon sens, au sens où je le voyais vraiment comme une plaie. J'ai eu beaucoup de mal à sortir de tout ça.
Comment vous en êtes sorti ?
Je suis tombé amoureux d'un garçon.
Ah, c'est beau.
Bah ouais. Et du coup, non, je l'ai rejeté jusqu'à mes 20 deux ou trois ans, je crois. J'étais parti dans l'hétérosexualité et un jour je suis tombé amoureux d'un garçon en arrivant à Paris, et ça a facilité évidemment beaucoup les choses. Mais c'est vrai que dans mon enfance, il n'y avait pas beaucoup de modèles. Les modèles étaient souvent, c'est là où je rends justice à la remarque de Mathieu Delormeau quand elle remet dans le contexte, les modèles étaient souvent caricaturaux, en tout cas perçus comme tels par un jeune qui essaie d'être normal. Je veux dire, quand on est gamin, tout ce qu'on veut, c'est surtout pas dépasser des autres.
Dès qu'on exclut de la norme, c'est là où c'est problématique.
Voilà. Donc, mais néanmoins, je pourrais rendre un hommage à Jean-Luc Delarue, qui ne m'a pas aidé, moi. Mais oui, ce n'est pas quelqu'un qu'on cite assez dans la communauté, mais parce que moi, il ne m'a pas aidé. Et ce n'est pas un modèle LGBT. Mais il avait fait, je me souviens, les premières émissions où il invite, ça se discute, où il invitait des homos, des parents d'homos. Mmh. Alors, c'était souvent très dramatique. C'était abordé que comme un problème, etc., etc. Mais encore une fois, il faut se remettre dans le contexte. Pourquoi je le cite ? Parce que je pense que entre mon adolescence et les premières alertes sur une future homosexualité de leur enfant chez mes parents, et le moment où je fais mon coming out à l'âge de 23 ans, une des choses qui a aidé, à mon avis, c'est le fait que ma mère, regardé les émissions de Jean-Luc Delarue, a assisté à ces débats. C'était les débats de deuxième soirée. Il passait un film sur les homos qui était dramatique. Et puis après, on faisait un débat avec les parents, etc., etc. Et je pense que... et je fais cette remarque parce que voilà, on a souvent... aujourd'hui, dans les combats d'aujourd'hui et dans la façon d'aborder ces sujets-là, dans ces sujets-là aujourd'hui, une recherche un peu de pureté. Voilà, si on ne parle pas exactement comme il faut des LGBTQIA+, on est critiqué, parfois vertement, etc. Le fait d'avoir des prises de position, des fictions, des débats qui ne sont pas parfaits, sur des chaînes grand public et des heures de grande audience, à mon avis, nous aide quand même, au bien sens sûr. Où bah, ça va éveiller des gens comme mes parents, à tout moins les sensibiliser, les faire réfléchir. Et je pense qu'il faut plutôt encourager toutes les initiatives qui vont dans ce sens.
Bah, merci, c'était très beau. J'ai une dernière question. C'est Noël bientôt. Mis à part têtu, qu'est-ce que vous conseillez à mettre sous le sapin ?
En fait, le problème, c'est de choisir. Moi, j'ai beaucoup offert cette année le premier et le dernier pour l'instant, d'Hugo Lindenberg, Un jour ce sera vide, qui raconte l'histoire de Baptiste, un gamin, l'été de ses 10 ans, et son amitié avec un garçon qu'il rencontre pendant l'été de ses 10 ans, et qui est un livre pas directement gay, au sens où c'est pas du tout une histoire gay, tout le monde peut s'y projeter, mais Hugo a une plume qui arrive à retranscrire les interrogations de l'enfant, justement, le moment où tout ça se joue, en fait. On commence à se construire le début du sentiment de la honte, qui est assez universel, en fait, chez les gamins, évidemment plus prégnant dans la communauté. Et du coup, c'est un bouquin très sensible qui, à mon avis, peut s'offrir à vos potes hétéros également, et qui les fera réfléchir sur plein de sujets sans qu'ils s'en rendent compte.
Wow. Et vous, Antoine ?
Moi, je pense que je conseillerais de mettre sous le sapin l'album de PR2B, qui est une jeune artiste lesbienne que j'aime beaucoup, parce que moi, je suis un grand amateur de chansons françaises. Et voilà, c'est une plume engagée, un peu à la Ferré, une voix qui, moi, me rappelle parfois Vartan dans ses moments les plus dramatiques. Et voilà, c'est un album qui est très beau, qui peut être très pop, qui peut être très mélancolique. Je pense qu'il est important de défendre aujourd'hui, toujours dans ce contexte de créer de nouvelles icônes, de défendre la création artistique LGBTQI+, et queer. On est vraiment dans une démarche de visibilisation de ces artistes-là. Et voilà, soutenez les artistes queer, partagez leur travail, écoutez leur musique, achetez-la surtout. Et comme ça, le monde tournera mieux.
Ok, alors moi, je vous conseille quand même les 4 nouveaux albums de Arca. Kick 2, Kick 3, Kick 4, Kick 5. C'est expérimental et c'est juste dingue aux oreilles. Merci beaucoup, messieurs.
Ben, merci à toi.
Et merci, à très bientôt. Passez de bonnes fêtes. Parfois, c'est compliqué, les réunions familiales. Si ça ne va pas, trouvez une oreille alliée. Ne restez pas seul. On est là. À bientôt.